I just put my absentee ballot in. I got it sometime earlier this week, and I knew there was a drop box over in this area, so I came over here to drop it in.
Près de 50 millions d'Américains ont déjà voté au moment où on se parle. Certains se rendent en personne aux urnes, d'autres glissent leur bulletin dans une enveloppe. Le vote par correspondance, ce sera important cette année en période de pandémie. Nous sommes devant une bibliothèque au nord de Washington, la Mount Pleasant Library. Et juste à côté de nous, il y a une grosse boîte. C'est là qu'on vote à Washington.
Oui, c'est une grosse boîte blanche avec écrit dessus en anglais et en espagnol. Official Ballot Drop Box, Urna Oficial para el Voto, autrement
voilà,
dit, boîte pour déposer vos bulletins de vote.
Il y a un cadenas dessus et puis il y a écrit en gros aussi que n'importe quelle tentative d'abîmer ces bulletins de vote ou la boîte en elle-même serait un crime. Et on a vu ce matin deux personnes déjà déposer leurs bulletins dedans.
Voilà, il y a une cinquantaine de lieux dans la capitale où ont été installés de grosses boîtes. Les gens peuvent venir et déposer leur enveloppe. C'est un moyen de voter par correspondance sans avoir besoin de passer par la poste.
Oui, là on est devant une bibliothèque, mais tu sais qu'aux États-Unis on peut voter aussi dans des écoles, dans des centres culturels et même dans des stades de football ou de baseball.
Voilà, les stades, un moyen de recycler des espaces plutôt vides en ce moment. 2020, une année et une élection décidément pas comme les autres. Aujourd'hui, à Washington, il y a
Anne Corpet, RFI,
Grégory Phillips de France Info
et Raphaël Grand de la radio-télévision suisse. On retrouve dans un instant Raphaël Bouvier-Auclair de Radio-Canada en voyage dans le sud des États-Unis. Et en fin d'épisode, on passera aussi un coup de fil à Sonia Dridi, plus à l'est, à Paris. Les Américains aux urnes, c'est l'épisode 26 de Washington DC. Bienvenue.
Suburban women, will you please like me? January 1st. Can you imagine if I lose?
I'm not going to feel so good. Maybe I'll have to leave the country. I don't know.
Our politics has become so mean, so petty, so negative, so partisan, so angry, and so unproductive.
À moins de deux semaines de l'élection, avec le vote anticipé, on commence à sentir la mobilisation, l'engouement qui semble important cette année. Et je vous propose d'appeler notre correspondant canadien sur le terrain.
Allô ?
Salut Raphaël.
Salut.
Salut.
Salut Raphaël, ça devient compliqué d'être tous les cinq réunis.
Ah, voilà.
On sent qu'on s'approche du vote. Alors tu as visité toi des bureaux de vote au Texas ?
Oui, exactement. Et c'est assez impressionnant, je dois vous dire. Imaginez, il y a déjà presque 6 millions de Texans qui ont voté. Et en 2016, le nombre total de votes au Texas, c'est à peu près de 9 millions. Alors, on est déjà à plus de la moitié. C'est énorme. Et il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place dans les différents comtés. Moi, je suis allé à Dallas, où le centre American Airlines, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le grand complexe où on peut aller voir des matchs de hockey ou des parties de basketball. Eh bien, il a été transformé en grand centre de vote par anticipation avec des mesures de distanciation. On peut même voter à partir de sa voiture. Il y a des employés du comté qui sortent avec un écran dans lequel on peut remplir le bulletin électronique. Puis je suis aussi allé en banlieue de Dallas. On dit souvent à quel point les banlieues vont être déterminantes dans cette élection. Eh bien, là-bas, c'est encore plus impressionnant. Dans la banlieue que j'ai visitée, imaginez, presque 44 % des électeurs du comté ont déjà voté. C'est le cas de William. Il ne m'a pas dit qui il a appuyé, mais sa priorité, c'est de mettre fin à la division.
It's great. It's great because Americans do not flex their vote enough.
Oui, on entend William très enthousiaste par rapport à cette grosse mobilisation au Texas.
Oui, parce qu'habituellement, il souligne que les Américains ne votent pas assez. Au Texas, par exemple, il y avait moins de 50 % de participation lors de la dernière élection il y a 4 ans. J'ai aussi rencontré Lori. Elle, c'est une militante républicaine. Elle était devant un bureau de vote pour faire campagne pour son mari, qui est un candidat aux élections locales. Elle ne se disait pas trop étonnée de cette mobilisation, justement.
Especially in a presidential election. So it doesn't surprise me. People are passionate, they want to get out.
Lori qui dit que c'est normal en année présidentielle que les gens sont motivés, passionnés, veulent se faire entendre, mais chose certaine, cette année, on peut le dire, et je l'ai constaté sur le terrain, les Texans sont très, très, très motivés.
Raphaël Bouvier-Auclair, donc, qui était au Texas. Un autre État très important dans cette élection, Grégory, c'est la Pennsylvanie.
Oui, État clé aussi, la Pennsylvanie, 20 grands électeurs à prendre. C'est peut-être d'ailleurs l'État qui fera l'élection présidentielle.
On en a beaucoup parlé.
On verra bien. Là aussi, ça vote beaucoup. 1 200 000 électeurs ont déjà rempli leur devoir citoyen. Et c'est évidemment pas un hasard si Barack Obama est allé à Philadelphie.
Hello, Philadelphia!
Mercredi soir pour tenir son premier meeting de campagne en faveur de Joe Biden.
You guys delivered for me twice and I am back here tonight to ask you to deliver the White House for Joe Biden and Kamala Harris.
L'ancien président a évidemment lancé un appel à la mobilisation en disant, souvenez-vous, en 2016, Hillary Clinton était donnée gagnante et elle a perdu. Donc il appelle les gens à aller voter et il appelle en particulier les Afro-Américains comme Aisha qui était invitée à ce meeting.
The black vote came out in numbers for Obama, in historic numbers. So hopefully this will push us over the edge and make sure that we get Pennsylvania for Biden-Harris.
Aisha qui est dans sa voiture, hein, parce que c'est un meeting en mode drive-in sur le parking d'un stade. Et elle dit, à l'époque, pour Obama, les Noirs s'étaient largement mobilisés. Donc j'espère que la même chose va se reproduire pour Biden-Harris. Croyez-moi, toute la communauté afro-américaine est bien mobilisée pour, dit-elle, se débarrasser de Donald Trump.
We get Trump out of the office, out of the office of the president.
Oui, c'est vrai, hein, ça se vérifie dans les chiffres, dans les États où on a commencé à voter, en Caroline du Nord ou en Géorgie, où le taux de participation des Afro-Américains dans le vote par anticipation est supérieur au taux de participation global de 2016.
Et la Géorgie, justement, c'est l'un de ces États où l'on a vu ces longues files d'attente devant les bureaux de vote. Voter, parfois, ça s'apparente franchement au parcours du combattant.
Oui, tu sais que cet État du Sud a été l'un des tout premiers à organiser ces opérations de vote dès le 12 octobre. Et quasiment le premier jour, le deuxième jour, on a vu des files d'attente. Les gens attendaient jusqu'à 11 heures pour pénétrer à l'intérieur des bureaux. C'était notamment le cas à Marietta, dans la banlieue d'Atlanta, où mon collègue Benjamin Fontaine a rencontré John.
We got up about 6:30, got here for a little after 7, and I just got out now. 4 hours for us. They don't have a lot of machines.
Et John raconte, je me suis levé à 6h30 du matin, on était là à 7h du matin, ça m'a pris 4h, il n'y a pas beaucoup de machines à voter à l'intérieur, le processus est long, il faut avoir des papiers, tout le monde ne les a pas, c'est compliqué. En plus, le système informatique rame. C'est une élection très importante et malgré cette attente, malgré tout ça, je voulais être là en personne.
Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en Géorgie, il y a eu pas mal de bureaux de vote qui ont été supprimés, hein, notamment dans les quartiers afro-américains. C'est ce que les démocrates dénoncent comme des entraves au vote. Hein. C'est un problème constant aux États-Unis. Il y a le cas exemplaire de la Floride, un État crucial. Vous vous souvenez, dans cet État, en 2018, au moment des midterms, ils ont adopté l'amendement 4.
Oui, on s'en souvient, mais est-ce que tu peux juste nous rappeler ce que c'est,
l'amendement 4 ? C'est celui juste après le 3, c'est ça ?
C'est celui qui a rétabli le droit de vote pour les personnes qui ont été condamnées par la justice, parce que jusqu'à ce moment-là, par exemple, attraper un homard dont les dimensions ne sont pas en normes, c'est considéré comme un crime en Floride, et ça pouvait entraîner votre radiation à vie des listes électorales. Alors l'amendement 4 a permis à 1 400 000 personnes, c'est près de 10% de la population en âge de voter en Floride, et bien de retrouver ce droit de vote. Mais le Parlement local, la majorité républicaine, a restreint ce droit en obligeant les anciens condamnés à régler toutes leurs ardoises, à payer toutes les amendes. Et donc, en fait, près de 800 000 personnes qui venaient de retrouver leur droit de vote l'ont à nouveau perdu. Enfin, l'affaire est encore devant la justice.
Les entraves au vote, c'est une grande question aux États-Unis. Rappelez aussi que l'abstentionnisme est important, hein, dans ce pays. La participation pour une élection présidentielle, c'est en général 55-57%. Ça, c'était en 2008 avec Obama. Donc pratiquement un Américain sur deux en âge de voter ne vote tout simplement pas. Quand on vous dit que près de 50 millions d'Américains ont déjà voté, une partie l'ont fait par correspondance. Alors soit par la poste, soit en glissant leur bulletin dans de grosses boîtes comme celle qui est installée juste à côté de nous. Le vote par correspondance, ce sera l'une des spécificités de cette élection, Anne.
Bah oui, c'est évidemment à cause de la pandémie. Hein. Il y a beaucoup d'électeurs qui préfèrent éviter la cohue le jour du scrutin et qui optent pour ce vote par courrier. Surtout les démocrates, d'ailleurs, qui ont été bien plus sensibilisés au risque de contamination par le coronavirus. Mais c'est une pratique qui, en fait, est déjà ancienne et bien installée dans certains États.
Tu sais d'ailleurs que dans quelques États, je pense à l'Oregon en particulier, il n'y a plus que du vote par correspondance. Les gens ne vont plus dans des bureaux, c'est uniquement par la poste.
Et dans l'Utah, qui est un bastion républicain, et où on vote par correspondance depuis longtemps, les élus disent à leurs électeurs « Oui, vous pouvez faire confiance au système chez nous. Hein. » Le président Donald Trump le dénigre constamment, mais il parle pour les autres États.
N'empêche, c'est parfois compliqué de voter par correspondance dans certains États.
Oui, je vais donner deux exemples. En Alabama, si tu veux voter par correspondance, il faut que ton bulletin soit certifié soit par un notaire, soit par deux témoins qui vont effectivement certifier que c'est bien toi qui as déposé le bulletin dans l'enveloppe. Donc évidemment, ça complique un petit peu les choses. Et puis, en Pennsylvanie, par exemple, si tu veux que ton vote soit bien comptabilisé, il faut que tu prennes ton enveloppe et que tu la mettes dans une autre enveloppe et que tu postes les deux. L'enveloppe secrète doit être totalement anonymisée. Et ça, il y a plein de gens dans cet état clé qui n'ont pas forcément ça en tête. Et on estime que là, pour cette élection, par exemple, ça risque de mettre sur la touche à peu près 100 000 bulletins parce que les gens, tout simplement, ne connaissent pas cette règle locale.
Et un peu plus loin aussi, au Texas, on le constate. D'abord, tout le monde ne peut pas voter par correspondance. Il y a des conditions. Et c'est pas toujours évident quand on le peut de déposer son bulletin de vote. Le gouverneur républicain du Texas a imposé une limite. Une seule boîte par comté. Dans certains cas, ça va, mais à Dallas, ça veut dire une boîte pour 1 400 000 électeurs. Ils doivent se la partager. Plus de 2 millions d'électeurs dans le comté de Harris, qui englobe Houston. Il y a eu de la contestation en justice, mais la mesure, elle est toujours en place. Puis au Texas, un autre obstacle, c'est qu'on n'est pas obligé de porter le masque, de se couvrir le visage dans les bureaux de vote. Ils sont exemptés. Il y a une stratège démocrate à qui je parlais un peu plus tôt cette semaine qui me disait que parfois, ça a posé problème. Il y a des électeurs qui n'étaient pas confortables, qui n'étaient pas à l'aise et qui ont décidé de se rendre dans d'autres bureaux de vote. Alors, même si, règle générale, les gens portent le masque, en tout cas ceux que j'ai vus à Dallas et en banlieue, ça fait partie des obstacles qu'on peut voir sur le terrain.
Et Raphaël, tu parlais des conditions pour pouvoir voter par correspondance. Le Covid n'est pas une raison valable pour voter par correspondance dans plusieurs États, le Tennessee, le Mississippi ou encore le Texas.
You know, in Texas, you have to have certain reasons to request an absentee. If somebody wants to drive up and, you know, not come in, they can vote by from their car.
Et Sherry Webb, elle est présidente du parti républicain d'Oldham County au nord du Texas. Elle explique qu'il faut effectivement avoir de bonnes raisons pour voter par correspondance. Elle rappelle qu'on peut venir en voiture si on a peur du coronavirus. Les exceptions sont les maisons de retraite ou si vous avez un problème de santé sérieux. Mais le Covid n'est pas une raison valable, elle le précise. Les républicains, généralement, contre le vote par correspondance, c'est parce qu'ils craignent des fraudes, hein, Grégory.
C'est le discours que Donald Trump prononce maintenant depuis des semaines. Tenez, par exemple, là, c'était lors du premier débat face à Joe Biden.
As far as the ballots are concerned, it's a disaster. They're sending millions of ballots all over the country. There's fraud. They found them in creeks.
C'est une catastrophe. Ils envoient des millions de bulletins dans tout le pays. On en retrouve dans des ruisseaux, des bulletins de Trump, dans des poubelles. Ils en ont perdu pas seulement 1 ou 2%, dit Trump, mais 30 ou 40%, ça va être une fraude comme on n'a jamais vu.
Oui, enfin, ce chiffre de 30 à 40%, il sort de nulle part. Hein. Aucune étude ne prouve que le vote par correspondance est moins fiable que le vote en personne dans les bureaux de vote.
Et un professeur de sciences politiques en Pennsylvanie me disait que les chances de fraude pouvant impacter le scrutin sont aussi grandes que de voir un astéroïde s'écraser sur la Terre, hein, en termes de probabilité.
Oui, mais n'empêche, ce discours que tient Donald Trump imprègne vraiment l'esprit de ses partisans. Tous les militants républicains que j'ai rencontrés aux deux meetings où je suis allée récemment m'en ont parlé et craignent vraiment que la victoire leur soit volée par les démocrates.
Et côté démocrate, justement, on craint même des violences hein, à l'issue du scrutin.
On craint que certaines milices d'extrême droite se mobilisent pour contester l'élection de Joe Biden s'il remportait la présidentielle. Mais alors, quand on interroge les républicains, eux, c'est plutôt les violences de l'extrême gauche en cas de victoire de Donald Trump qu'ils redoutent. Écoutez par exemple Austin, il a 18 ans, il va voter Donald Trump.
I think if Trump gets reelected, it'll be very violent. It'll be by the people that are mad that they lost.
Je pense que ce sera très violent si Trump est réélu. Les gens de gauche deviendront fous s'ils perdent, ce sera très violent. Mais, ajoute-t-il, si les républicains perdent, eux, ils retourneront au boulot comme ils le font habituellement. Ce sont des citoyens normaux, ils ne provoquent pas d'émeutes.
Voilà, comme ça tout le monde est rassuré. Conséquence néanmoins concrète du vote par correspondance, ce sont de possibles retards au soir du 3 novembre. Ça, c'est vraiment concret.
Tu vas croire que je suis obsédé par la Pennsylvanie, mais dans cet état clé, par exemple, les bulletins de vote pourront être réceptionnés jusqu'à 3 jours après l'élection, c'est-à-dire jusqu'au 6 novembre, si je me trompe pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais tout se jouait sur la Pennsylvanie, on n'aurait pas le résultat avant 3 ou 4 jours. Et il y a, je crois, une vingtaine d'États, 22 exactement, qui ont la même règle de réception des bulletins jusqu'à 3 jours après l'élection.
Et c'est là qu'on parle de ce fameux mirage rouge, c'est-à-dire que comme les républicains vont, eux, se déplacer massivement en personne dans les bureaux de vote, il y a dans certains États, comme la Pennsylvanie, la probabilité que dans la nuit du 3 novembre, ce soit Donald Trump qui ait donné gagnant. Mais par la suite, une fois que le décompte des votes par correspondance sera effectué, la majorité pourra rebasculer du côté démocrate.
Parce qu'il faut bien préciser qu'il y a certains États qui ont plus l'habitude que d'autres d'ouvrir les enveloppes. Dans le Michigan, dans le Wisconsin, ce sera peut-être un peu une première d'avoir autant d'enveloppes. Les autorités du Michigan disent qu'il faut se préparer à une semaine électorale.
C'est possible. Et puis, le scénario inverse est possible aussi. C'est-à-dire que, on voit quand même Biden est largement en tête des sondages au niveau national et donc pas mal détaclé, y compris la Floride encore aujourd'hui. Il y a un scénario qui est, par exemple, Biden remporte la Floride plus un autre état clé le 3 novembre au soir, et à 23h, l'affaire est pliée, l'affaire est dans le sac. C'est possible aussi.
En tout cas, au niveau des sondages qui donnent gagnant Biden, personne n'ose vraiment s'avancer. On sent le traumatisme de 2016. Généralement, c'est la Floride qui a besoin de recompter les bulletins. On verra cette année s'il faudra peut-être recompter dans le Wisconsin ou en Iowa. Un mot sur l'ambiance de campagne, Trump et Biden dans la dernière ligne droite. Trump d'abord.
Le président est en pleine forme. Il enchaîne les meetings, parfois 2, voire 3 par jour.
Il danse.
Il danse sur YMCA. Ça manque un peu de souplesse. Il n'est pas mûr pour Dancing with the Stars.
Danse avec les stars.
Go out and vote. Thank you, Pennsylvania. Thank you.
Sur le fond, il rejoue 2016. Il continue de faire siffler Hillary Clinton et les médias, bien sûr. Et puis, il tente aussi, évidemment, de lancer quelques pots de banane sous les pieds de son concurrent, notamment en ciblant son fils, Hunter Biden, avec cette histoire un peu douteuse d'email.
Ça nous fait penser aux emails d'Hillary Clinton. Très 2016 aussi, les ingérences.
Oui, avec cette conférence de presse du FBI cette semaine pour dire que deux puissances étrangères tentent de s'ingérer dans la présidentielle américaine. Sont visés l'Iran et la Russie. Et parallèlement, dans cette même conférence de presse, vous avez le patron du FBI qui essaye de rassurer quand même les électeurs américains en disant « Notre système est sûr et certain, vous pourrez voter ». Il y a toujours ce parfum d'ingérence, un petit peu comme en 2016, mais pas avec des faits très avérés, en tout cas cette semaine.
Et comment vous la sentez, la campagne du côté de Biden sur la dernière ligne droite ?
La question, c'est où est-il ? On le sait, il est chez lui à Wilmington, mais on ne l'a pas vu tout le début de la semaine.
Il disait qu'il préparait le débat.
Il prépare le débat, c'est vrai. Et puis, il y a cette absence des podiums pendant que Trump parcourt le pays dans tous les sens. Lui est en retrait et il a beau jeu de rester discret parce que de toute façon, il est en tête dans les sondages.
Donc, et ça fonctionne. C'est une stratégie qui a marché pour lui depuis le mois de septembre.
En gros, dans ces derniers jours, on est là. Je ne fais rien, je suis discret, Obama fait campagne pour moi et je continue à engranger des sondages positifs.
Raphaël Bouvier-Auclair, prise de température au sud des États-Unis.
Je vous parlais de Lori tout à l'heure, une militante républicaine qui faisait campagne pour son mari. Tout au long de notre conversation, elle tenait à dire que la politique nationale, présidentielle, c'était pas la même chose que le travail de son mari au niveau local. Puis on a entendu aussi des sénateurs prendre leur distance avec le président Trump, Ben Sasse du Nebraska, qui lui a reproché, entre autres, la manière dont il traitait les femmes. Puis au Texas, John Cornyn, le sénateur qui n'a pas beaucoup critiqué Donald Trump ces 4 dernières années, mais qui a cru bon, en fin de campagne, de dire qu'il n'a pas toujours été en accord avec le président, notamment sur les les questions liées au déficit, mais qu'il a préféré garder ses dissensions pour lui parce qu'il pensait que c'était plus efficace.
Les sénateurs républicains qui commencent à prendre leur distance. Washington DC, 26e épisode. On va rapidement ouvrir un petit chapitre questions d'auditeurs. Alors, on a reçu pas mal de questions sur notre fil Twitter, Washington DC. C'est Raphaël Bouvier-Auclair, justement, toi qui as eu la grande idée d'ouvrir le balado aux questions.
Merci.
Donc, Raphaël, tu commences. J'en ai une pour toi. Près de 50 millions d'Américains qui ont voté de manière anticipée. On l'a dit, grande mobilisation. Est-ce que c'est favorable aux démocrates ou aux républicains? Question piège d'Alan.
Alors, piste de réponse, il y a un professeur d'université en Floride qui tient un site web fort intéressant. J'invite nos auditeurs à aller faire un tour, US Election Project. Et on voit qu'en ce moment, parmi les gens qui ont voté par anticipation, en personne, par la poste, 51% sont démocrates, 26% républicains et 21% n'ont pas d'affiliation politique, donc sont indépendants. Avantage aux démocrates pour l'instant, mais est-ce que ça veut dire qu'il y aura davantage de républicains qui iront au bureau de vote le 3 novembre? C'est une possibilité.
Alors moi, j'ai Christophe hein, qui habite à Nice, mais qui est américain et donc qui a le droit de vote. Il m'a interrogé sur le nombre de candidats à la présidentielle parce qu'il a été très surpris de voir qu'il y avait 6 noms sur le bulletin qu'il avait reçu. Alors c'est vrai, il n'y a pas que Joe Biden et Donald Trump. Au niveau national, il y a aussi Joe Jorgensen pour le Parti libertarien. Il y a un candidat vert qui est présent dans plus de 30 États. Et puis dans chaque État, il y a une myriade de candidats. Alors par exemple, vous savez combien il y a de candidats le record, hein, dans le Vermont et dans le Colorado.
Aucune idée.
Bah, dites un chiffre.
Une douzaine.
Ouais. 21. Vous rendez compte?
21 candidats pour la présidentielle.
Oui, 21 candidats. Mais bon, aucun n'est susceptible de semer le trouble dans le scrutin. Hein. Il s'agit bien d'un duel entre Donald Trump et Joe Biden.
Et puis une dernière question, question de Philippe. C'est pour toi, Grégory. On parle souvent des États clés. Quid des électeurs des autres petits États? Donc c'est vrai, on ne parle pas souvent. Une réforme pour que chaque voix compte à l'avenir? Point d'interrogation.
Bah c'est vrai que les petits États qui n'apportent que 3 grands électeurs comptent très peu dans cette présidentielle finalement. Donc oui, il y a eu de tout temps quasiment des propositions de réforme et que notamment on prenne en compte le vote populaire et pas ce système de collège électoral. Je me souviens que pendant la primaire démocrate, Elizabeth Warren, notamment Pete Buttigieg, mettait ça en avant pour que chaque voix d'Américain compte. Alors oui, ces petits États ne sont pas très importants pour la présidentielle. En revanche, ils sont surreprésentés au Sénat, parce que vous savez qu'on a aussi des élections sénatoriales.
Réécoutez le numéro 25 de Washington DC.
Et que chaque État américain dispose de 2 sénateurs. Ça veut dire que, par exemple, un petit État comme l'Idaho compte autant au Congrès américain que la Californie, par exemple. Donc il y a effectivement un problème de sous-représentation pour la présidentielle et de surreprésentation au Sénat.
Voilà, on va boucler comme ça ce chapitre questions-réponses. Merci beaucoup Raphaël Bouvier-Auclair pour cette idée lumineuse.
Salut Raphaël.
À la semaine prochaine.
Et on va te laisser parce qu'on va devoir appeler Sonia Dridi. Elle est de passage à Paris, un peu plus à l'est en ce moment.
Allô?
Salut Sonia.
Salut Raphaël.
Hello Sonia.
Salut.
Et Sonia, tu as parlé avec des Belges, des Suisses, des Français. Alors comment est perçue cette campagne dans cette partie de la francophonie? Il y a aussi des questions, des interrogations?
Oui, alors déjà, beaucoup me disent que finalement, ils ne savent toujours pas qui est Joe Biden.
Ah bon?
Ils entendent encore beaucoup parler de Donald Trump. J'ai l'impression que finalement, que ce soit les Français, les Suisses, les Belges, beaucoup ne connaissent pas encore bien le personnage de Joe Biden. En tout cas, on me dit que voilà, on entend toujours beaucoup parler de Donald Trump. Beaucoup me posent la question, mais pourquoi ce serait différent de 2016? On l'a bien vu en 2016, les sondages étaient en faveur d'Hillary Clinton. C'est un peu la même chose cette année. Donc, en fait, j'ai l'impression que pas mal d'Européens sont assez méfiants pour cette élection et ne comprennent pas forcément, se disent en tout cas que Donald Trump pourrait de nouveau gagner. C'est ce qui s'est passé en 2016. Et puis, par contre, j'ai l'impression qu'il y a une bonne compréhension du système des États-clés. Beaucoup me disent « Ah mais oui, c'est vrai que tout va se jouer en Floride ou en Pennsylvanie. » Donc j'ai été parfois surprise voilà, de voir que le système électoral américain, qui est quand même assez compliqué, a été assez bien compris.
C'est intéressant ce que tu dis sur Biden. Il faudrait presque écrire un livre sur lui, non?
Tout à fait, voilà. Et mon livre arrive à point nommé.
Voilà, Sonia et son livre en voyage en Europe. On te récupère à Washington la semaine prochaine, c'est ça?
Oui, on a besoin de toi, il faut revenir.
Tout à fait.
Salut Sonia.
À bientôt, au revoir.
Washington DC, sur les plateformes des radios francophones publiques et Apple Podcasts, c'est une collaboration canadienne, française, belge, suisse. On se rapproche de cette élection ensemble, en balado et en rythme hebdomadaire, toujours, pour essayer de suivre cette campagne trépidante. On se dit à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.
À bientôt.
Washington DC avec
Anne Corpet, RFI,
Grégory Phillips, France Info,
Sonia Dridi, RTBF,
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada,
Raphaël Grand, Radio-Télévision Suisse.
Réalisé par
Virginie Gagnon-Leduc.
Bon, moi je tournais le dos à la boîte, mais vous avez calculé le nombre de personnes qui sont venues voter pendant l'enregistrement?
Ouais, j'ai le taux de participation concernant cette unique boîte ici à Washington. En 40 minutes, le temps d'enregistrement à peu près de ce podcast balado, 3 personnes ont déposé leur bulletin dedans.
Ouais, moi j'ai le détail, hein. Il y avait une Afro-Américaine de plus de 65 ans et 2 hommes blancs de moins de 65 ans, dont l'un est venu avec son chien.
Et le chien n'a pas voté,
non,
hein.
Bien sûr.